Arrivée du président Joko Widodo d'Indonésie à Sydney pour sa première visite en Australie. Et en France, le parquet national des finances se saisit du Penelope Gate. Et des violences racistes anti-immigrés se poursuivent en Afrique du Sud, alors que le président Donald Trump promet une Amérique plus musclée que jamais. Le président indonésien Joko Widodo est arrivé à Sydney ce samedi matin pour sa première visite officielle en Australie. Au menu des discussions avec le premier ministre Malcolm Turnbull et les opérateurs économiques australiens, le commerce et les investissements. L'Indonésie est le 12e partenaire économique de l'Australie, mais selon Aaron Connolly de Lowy Institute, les interlocuteurs vont également s'entretenir de l'avenir du projet du partenariat régional cher à l'Indonésie, connu sous le nom de CEPA, ou le Comprehensive Economic Partnership Agreement. Le CEPA est une sorte de traité commercial que l'Indonésie souhaite conclure avant la fin de l'année en cours.
It's not quite a free trade agreement, but it is meant to resolve some of these sectoral issues over things like cattle and also explore new ones, such as in innovation. I think you'll also see the leaders talk about the strategic situation in the region, particularly the South China Sea.
Et le premier ministre Malcolm Turnbull et son prédécesseur Tony Abbott continuent de se lancer des piques par médias interposés. Bien, c'est Tony Abbott qui avait lancé la salve en dénigrant les performances de l'équipe Turnbull. Le premier ministre avait contre-attaqué en dénigrant à son tour le bilan de son prédécesseur. Et hier soir, Tony Abbott, de remonter au créneau, de tenter de s'expliquer par le biais de Sky News. Écoutons Tony Abbott.
What I was talking about last night are two important policy issues that I think will help keep the government on track. First is freezing the RET to take the pressure off power prices. And second, and very importantly, is reforming the Senate so we can have government, not gridlock, in the months and years to come.
Et pour conclure donc cette petite bagarre, donc des petites phrases, Malcolm Turnbull a ajouté que la déclaration de son prédécesseur est tout simplement triste.
So I'm not going to be distracted by outbursts like that. We all know what it's about. As Matthias Cormann said, it's sad.
Et le parquet national financier, cette fois-ci c'est en France, a ouvert hier une information judiciaire dans l'enquête sur les emplois présumés fictifs dont auraient bénéficié la femme de François Fillon et deux de ses enfants. Franck-Alexandre de RFI nous apporte les détails de ces derniers développements.
Le parquet n'a en effet pas traîné pour ouvrir cette information judiciaire, car depuis le 25 janvier dernier, date du début des investigations, un changement législatif est intervenu. L'Assemblée nationale a voté il y a quelques jours une loi rendant impossible les poursuites au-delà d'un délai de 12 ans pour une bonne partie des délits financiers. Or, indique le PNF, une partie des faits concernés est ancienne. La procureure Éliane Houlette était donc sous pression, et pour que le dossier Fillon ne soit pas amputée, elle devait nécessairement ouvrir cette instruction avant que la nouvelle loi n'entre en vigueur. C'est désormais chose faite, il n'y a plus d'obstacle juridique à l'enquête, ouverte des chefs de détournement de fonds publics, abus de biens sociaux, trafic d'influence et manquement aux obligations de déclaration à la Haute Autorité sur la transparence de la vie publique. Une instruction longue va pouvoir démarrer et elle ira très certainement bien au-delà de la présidentielle, compte tenu des convocations mais aussi des recours possibles, car la défense de François Fillon, ayant désormais accès au dossier, ne manquera pas d'user de tous les moyens pour ralentir les investigations.
Bien, les avocats des époux Fillon n'ont pas attendu pour déclarer que leur innocence sera enfin reconnue. Et les juges, et ce, en ouvrant une information judiciaire, donc le PNF confirme qu'il n'a pas pu démontrer la réalité des infractions poursuivies, ont estimé les avocats du couple dans un communiqué. Et toujours en France, les chiffres du chômage ont été publiés hier et, comme nous l'a dit Patricia Lecomte de RFI, l'embellie qu'on attendait dans le domaine de l'emploi a du mal à se concrétiser.
Avec 800 000 chômeurs supplémentaires, la tendance reste favorable selon la ministre du Travail, Myriam El Khomri, car sur 3 mois, leur nombre diminue de 0,3%, ce qui signifie que 9 100 personnes ont retrouvé un emploi sur cette période. Pour les chômeurs de la catégorie B, ceux ayant exercé une activité réduite, on observe la même tendance pour le mois de janvier avec une légère baisse de 0,3%. En revanche, ceux qui ont occupé un emploi au moins à mi-temps, la situation continue de se dégrader. En janvier, leur nombre a augmenté de 1,9% et de 3,4% sur 3 mois, signe d'une précarité. Ceux qui bénéficient le plus de l'embellie restent les jeunes de moins de 25 ans, avec une baisse de 0,3% en janvier et de 1,7% sur les 3 derniers mois. La tendance est également au recul pour les seniors, mais dans des proportions insuffisantes pour voir leur situation s'améliorer. Plus globalement, si on regarde les chiffres sur un an, le chômage a reculé de 2,5% et concerne un peu plus de 89 000 personnes. Toutefois, l'amélioration reste discrète. Au total, catégories A, B et C confondues, il y a en France métropolitaine presque 5,5 millions de chômeurs, un chiffre en hausse de 0,5% sur un an.
On reste en France, mais cette fois-ci dans le domaine du cinéma, où a eu lieu hier soir la 42e cérémonie des Césars à la salle Pleyel. Bien, le film Elle a remporté le César du meilleur film. Isabelle Huppert a obtenu le César de la meilleure actrice. Le César du meilleur acteur a été décerné à Gaspard Ulliel. Et pendant ce temps-là, en Afrique, on se prépare à fêter le cinéma aussi. On prépare à Abidjan, en effet, l'ouverture prochaine de la grande messe annuelle du cinéma africain. Eh bien, Frédéric Gara de RFI nous décrit l'ambiance des préparatifs de la FESCAPO édition 2017.
Le village du FESPACO, village Akwaba, qui signifie « bienvenue en Côte d'Ivoire », est en train d'être dressé, place de la Nation, avec ses artisans venus de Bassam, d'Abidjan ou de Boaké, puisque c'est la Côte d'Ivoire qui est l'invité d'honneur du FESPACO cette année. Et il y aura aussi tout un tas d'activités cinématographiques dans ce village, une sorte de mini Cinecittà ivoiro-burkinabé, où l'on pourra découvrir tous les métiers du cinéma, de la production au scénario, en passant par les décors, les trucages vidéo, et aussi, évidemment, les tournages. Des tournages, cela ne manque pas ici à Ouaga, puisque pas moins de 150 films dans l'ensemble des catégories en compétition seront projetés dans 9 salles de cinéma un peu partout dans la capitale burkinabé. Des salles d'ailleurs, on en compte une de plus depuis ce matin à Ouaga, puisque le groupe Vivendi vient d'inaugurer la salle Canal Olympia Yenenga, un lieu de projection ultra moderne que le groupe Vivendi développe depuis quelques mois un peu partout en Afrique. 288 places dans une salle climatisée avec projecteurs numériques et sonorisation high-tech. De quoi faire rentrer le FESPACO dans l'ère du numérique et permettre aux nombreux cinéphiles burkinabés d'avoir une salle aux derniers standards internationaux.
Et on reste sur le continent africain. Et bien hier, la police sud-africaine a dû intervenir une fois de plus dans le township de Mamelodi pour prévenir des attaques contre des migrants. Ces attaques durent depuis près de 2 semaines où... Et donc, il s'agit des groupes de Sud-Africains qui s'en prennent violemment à des immigrés qu'on accuse souvent d'être à l'origine de la criminalité et du chômage en Afrique du Sud. Plus particulièrement visés, ce sont des migrants d'origine nigériane et somalienne. Explication de la situation à Johannesburg et Pretoria avec Alexandra Branjon pour RFI.
Ils étaient environ 300 ce matin à manifester devant les services d'immigration d'un quartier populaire de Pretoria. Des Sud-Africains qui accusent les étrangers d'être responsables du trafic de drogue et de la prostitution.
On ne veut plus des étrangers car ils vendent de la drogue. Nos enfants fument du niaopé et ne vont plus à l'école. En plus, ces étrangers prennent nos maisons.
Tous les étrangers ne doivent pas partir. Mais ceux qui sont là illégalement, surtout les Nigériens, 90% d'entre eux n'ont pas de papier. Ils prostituent les filles et la police ne fait rien, car les Nigérians leur donnent de l'argent.
La manifestation a failli tourner à l'affrontement quand un groupe d'une centaine de jeunes, certains cagoulés, bâtons à la main, s'est dirigé vers une rue de commerçants somaliens. Pierre à la main, ces derniers se sont interposés, accusant les manifestants de vouloir piller leur boutique.
Nous sommes venus ici pour avoir une vie meilleure, pas pour vendre de la drogue ou violer des femmes. On est juste là pour faire du commerce. Vous voyez, ces gens, ils ont des couteaux. Je ne veux pas me battre, mais là, c'est mon café internet. Si je pars, ils vont l'attaquer. Il faut que je me défende. C'est moi qui ai ouvert ce magasin. Je paye des taxes. Je n'ai pas pris le travail de quelqu'un.
La police s'est interposée entre les deux groupes, a tiré des balles en caoutchouc. La manifestation a été dispersée, mais la tension entre communautés reste vive.
Et Donald Trump s'est adressé hier soir à quelques 10 000 délégués enthousiastes participant à la grand-messe des conservateurs, le CPAC, qui se tient cette semaine dans la banlieue de Washington. Et dans son discours, il a redéfini ce que serait le Parti républicain sous sa présidence. Donald Trump a notamment mis l'accent sur un contrôle renforcé aux frontières et une défense forte. Personne n'osera plus défier l'Amérique sous son administration, a-t-il déclaré.
We will be substantially upgrading all of our military, offensive, defensive, everything, bigger and better and stronger than ever before, and hopefully we'll never have to use it, but nobody's going to mess with us, folks. Nobody.
Et des documents rendus publics cette semaine démontrent que l'Australie a participé à l'invasion de l'Irak en 2003 uniquement pour renforcer son alliance militaire avec les États-Unis. Et selon ces documents obtenus par nos confrères de Fairfax dans le cadre de la loi sur la liberté d'information, bien la participation australienne était modique et n'avait aucun sens. Au total, ce sont 572 pages contenues dans un rapport qui avait été rédigé entre 2008 et 2011 par le docteur Albert Palazzo, du Directoire pour la Recherche et l'Analyse de la Défense. Ces documents concluent qu'en engageant les forces australiennes, John Howard, le premier ministre de l'époque, avait pour seule motivation de renforcer l'alliance avec l'administration du président George Bush. Cependant, le général-major à la retraite, Jim Molan, estime quant à lui qu'il devait y avoir d'autres motivations.
I wonder if any of your viewers really think that there can only be one reason for going to war. I wonder if any of them think that if there are more than one reason, and I reckon there are about five or six or seven reasons for our initial involvement and then an ongoing involvement, that they all have equal weight.
Et hier, un attentat perpétré par le groupe État islamique a tué 15 gardes-frontières près de la frontière entre l'Irak et la Jordanie. Attentat intervenu au moment où les djihadistes enregistraient des sérieux revers puisqu'ils ont perdu le contrôle de l'aéroport de Mossoul sur lequel ils avaient fait main basse en 2014. Cette prise a permis aux forces irakiennes d'entrer dans la partie ouest de Mossoul où des violents combats font toujours rage. Et un coup d'œil météo pour ce samedi, Perth 40 degrés, Adélaïde 26, Melbourne 21 degrés, Hobart 20, Canberra 24 degrés, Wollongong 21, Sydney 24 degrés, Newcastle 24, Brisbane 30, Cairns 31 et Darwin 32 degrés. Et sur les marchés financiers, un dollar australien vous achète aujourd'hui 77 centimes de dollars US et 73 centimes d'euros. Ceci clôture cette édition. À présent, un rappel des principaux titres. Arrivée du président Joko Widodo en Indonésie à Sydney pour sa première visite officielle en Australie. En France, le parquet national des finances se saisit du Penelope Gate. Et des violences racistes anti-immigrés se poursuivent en Afrique du Sud, alors que le président Donald Trump promet une Amérique plus musclée que jamais. Ceci termine cette édition. On fait une courte pause avant de passer au magazine des sports.